Bienvenue, moi c'est Luca avec Apolline. Aujourd'hui dans la classe média, on va vous présenter une émission dans laquelle les 4e A ont travaillé sur différents sujets. On va commencer par Martin, Brian et Léo qui ont travaillé sur quel métier y avait-il au Moyen-Âge. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre sujet ?
De nombreux métiers à l'époque médiévale étaient essentiels au bien-être quotidien de la communauté et ceux qui avaient acquis des compétences par l'apprentissage pouvaient s'attendre à gagner un revenu plus élevé, même plus régulier que les agriculteurs ou même les soldats.
Dis Martin, tu peux me donner une idée de métier ?
Une idée de métier comme le forgeron, travaille le fer. Il chauffe son métal dans un brasier de charbon, puis à l'aide d'un marteau et d'une enclume, il forme des objets.
Et comment ils vendaient leur production ?
Les marchands étaient un élément essentiel de l'économie depuis que les gens ont souhaité échanger diverses marchandises. Suite à la chute de l'Empire romain, la plupart de la population était composée de paysans, travaillant les terres des nobles. Les marchands étaient une classe sociale relativement restreinte, néanmoins, ils avaient plus de pouvoir que les paysans.
Les bouchers ont été parmi les premiers capitalistes du commerce, ils appartenaient à une caste spéciale de la bourgeoisie, distincte selon certains, mais parmi les plus prospères avec les drapiers et les avocats. Certains d'entre eux possédaient d'immenses richesses sous forme de divers biens.
Un boulanger est une personne qui fabrique du pain. Le pain est la base de l'alimentation et chacun en consomme à peu près 1 kg par jour. Et en ancien français, on disait boulanger.
Un meunier est une personne qui moule le blé à l'aide d'un moulin, soit à eau, soit à vent. Pour en faire de la farine, les graines sont écrasées entre deux meules en pierre.
Le tisserand est un artisan qui fabrique des tissus. Il utilise pour cela un métier à tisser ou parfois des aiguilles. Ses matières premières sont le coton, la laine, le lin, le chanvre et la soie.
On distingue deux sortes de paysans au Moyen-Âge, les paysans propriétaires et non propriétaires de leurs terres. Les paysans propriétaires se décomposent en deux catégories. Les serfs appartiennent au seigneur qui a tous les droits sur eux. Lorsqu'un seigneur vend une partie de ses terres, les serfs sont vendus avec. Et les paysans libres, appelés vilains, par contre, ne sont pas attachés à la terre, mais doivent travailler, payer les impôts au seigneur et effectuer des corvées dans la réserve.
Et il y a aussi les paysans propriétaires. Un alluetier pouvait être soit détenteur d'une terre noble affranchie de toute suzeraineté autre que celle du roi, soit un paysan affranchi ne relevant d'aucun seigneur sauf le roi et possédait une terre nommée allieu ou franc allieu.
Merci pour vos explications. Maintenant, on en sait plus sur leur métier.
Maintenant, on va accueillir Robin pour nous dire comment l'histoire de l'écriture est apparue.
L'écriture est née en Mésopotamie, une zone géographique située entre les rives du Tigre et de l'Euphrate, deux fleuves situés dans l'Irak actuel. Les premières traces documentées datent de 3400-3300 avant Jésus-Christ. Il ne s'agit pas encore à cette époque d'une écriture basée sur un alphabet, mais sur des pictogrammes, représentations schématiques d'objets, de lieux, de concepts. Peu à peu, l'écriture va évoluer, en même temps que la technique pour la réaliser. Et face à la difficulté de tracer des courbes dans l'argile, les Sumériens vont développer ce qu'on appelle l'écriture cunéiforme, une écriture en forme de coin ou de clou, que l'on réalisait avec une pointe taillée en biseau sur des tablettes d'argile humide. Elle consiste en la combinaison de coins imbriqués les uns dans les autres pour former des signes. Cette écriture d'une extrême complexité, comme en témoignent les tablettes d'élèves, a continué à évoluer au cours des siècles suivants.
Merci Robin pour ces explications. Maintenant, on en sait plus sur l'histoire de l'écriture.
Autour de Loris qui a travaillé sur la Corée du Nord. Peux-tu nous en dire plus sur ce pays, car on ne comprend pas pourquoi la Corée du Nord est séparée du monde.
Bonjour, je suis Loris et aujourd'hui je vais vous parler de la Corée du Nord et pourquoi c'est un pays coupé du monde. La Corée du Nord est un pays dont la capitale est Pyongyang, alimentant les fantasmes, cette dictature défie le monde en multipliant les essais nucléaires et en contrôlant sa communication. Ce pays de 22 millions d'habitants, dirigé par Kim Jong-un, le dirigeant suprême du pays, est l'un des pays les plus stricts. La Corée ne possède que deux chaînes de télé, créée en Corée du Nord et qui parle de ce pays et de la guerre. En Corée du Nord, le dictateur Kim Jong-un a des monuments et des tableaux avec lui qui montrent souvent de bonnes actions. En Corée, on ne plie pas le journal. Cela ne se fait pas. Cet acte est répréhensible par la loi. Autre loi, les affiches et les images des dirigeants nord-coréens ne doivent être pliées sous aucun prétexte, sinon vous risquez la peine de mort. Dernier exemple, il ne faut pas planter ses baguettes dans son riz. Pour conclure, la Corée du Nord est un pays différent des autres, car il y a peu de divertissement, avec seulement 2 chaînes de télé et avec des lois absurdes.
Eh bien, merci Loris pour avoir approfondi plus sur ton sujet.
Maintenant, on va accueillir Mathéo et Paul qui vont nous raconter l'histoire de Finding Iceland.
Attends, mais moi je ne connais pas ça. Mais il y a Paul qui est originaire de là-bas et je pourrais lui poser des questions. C'est où Finding Iceland, Paul ?
C'est une île qui est située vers l'équateur dans l'océan Pacifique.
Paul, dis-nous, il y a combien d'îles au Kiribati ?
Il y a 33 petites îles au Kiribati.
Y a-t-il beaucoup d'habitants à Finding Iceland ?
Non, il n'y a que 2 000 habitants.
Quand Finding Iceland a été découverte ?
L'île a été découverte en 1798 par le capitaine américain nommé Edmund Fanning.
Ok, ça fait longtemps. L'île a déjà eu des problèmes auparavant.
L'île a été attaquée par un croiseur allemand en 1914.
Comment c'était la vie là-bas ?
La vie là-bas est facile, tu peux vivre sans argent parce qu'il y a la mer, tu peux aller pêcher ou prendre des fruits et aussi il y a l'arbre qui s'appelle l'arbre à pain.
Tu peux nous dire, Paul, qu'est-ce que c'est l'arbre à pain ?
L'arbre à pain, c'est un arbre qui produit un fruit tropical. Le fruit ressemble à un ballon vert. L'arbre peut pousser jusqu'à 20 mètres de haut.
Alors pourquoi ça s'appelle l'arbre à pain ?
Ça s'appelle l'arbre à pain parce qu'à l'intérieur du fruit ressemble à du mie de pain.
Pourquoi tu es parti de Kiribati ?
Je suis parti de là-bas parce que c'est mon père qui m'a amené pour faire mes études ici en France.
Est-ce que tu aimes bien la France ?
Oui, j'aime bien la France parce que c'est beau.
Merci beaucoup, Paul, pour m'avoir répondu à mes questions.
Merci pour vos explications sur son histoire.
Au tour de Sacha, qui va nous raconter son sujet qui parle de Barcelone. Je te laisse prendre la parole.
Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle chronique. Je vais vous présenter la ville de Barcelone. Notre première question est pourquoi Barcelone est une ville à visiter ? Il faut tout d'abord savoir que Barcelone est la 2e plus grande ville d'Espagne. Le premier thème que je vais aborder est le domaine sportif. Comme sport typique de Barcelone, il y a la Via Ferrata, qui est un sport où on suit un itinéraire sur les parois des montagnes, équipé d'échelles, de caps fixés et de broches pour que les pratiquants s'assurent pour progresser. À Barcelone, il existe également une équipe du foot nommée le FC Barcelone. Le club a été créé en 1899. Il comporte 139 trophées et leur plus grande légende, c'est Lionel Messi. Notre second thème est la nourriture. Comme plat typique de Barcelonais, il y a le pain amb tomàquet, c'est du pain à la tomate et du riz noir. Et il y a des croquetas, qui sont tout simplement des croquettes de fromage et de jambon. Comme boisson typique, il y a la horchata, une boisson sucrée à base de lait d'amande. On va finir sur le top 5 des monuments. Voici le top 5. En 5e position, on retrouve le Palais de la Musique. En 4e position, il y a le mystérieux Parc Güell. En 3e position, on retrouve la Casa Mila, qui est aussi appelée la Pedrera. En 2e position, il y a la Casa Batlló. Et la première position revient à la Sagrada Familia. Donc voilà les raisons de pourquoi Barcelone est une ville à visiter, car il y a des monuments à visiter, des choses à manger qu'on ne trouve pas en France. Bref, en Espagne, on ne s'ennuie pas. Alors, allez-y.
Merci beaucoup, Sacha, pour ton sujet qui m'a impressionné.
Maintenant, on va accueillir Evan et Maëlle qui vont nous parler de l'agriculture. Est-ce que Maëlle et Evan, vous pouvez nous approfondir sur ce sujet ?
Bonjour, moi, Evan. Et mon ami Maël, on va vous parler de l'agriculture. Car on adore ça, on aime ça parce qu'on en parle dans nos sujets de discussion presque tous les jours au collège. Et en plus, on peut conduire des tracteurs dans notre entourage. Moi, par exemple, J'ai pratiqué ça avec mon papy dès mon plus jeune âge. Ce que j'aime le plus, c'est qu'on est en pleine campagne, le contact avec les animaux et la nature. Quand j'étais petit, j'étais en contact avec des vaches et des taureaux. Je faisais la traite et je me sentais bien auprès des animaux. Je veux être agriculteur depuis tout petit. Et toi, Maëlle, c'est quoi ton expérience dans l'agriculture ?
Je connais des cousins où j'ai, pendant les vacances, pu voir un veau naître et je m'occupais de lui, puis j'ai récolté du blé.
Mais ce serait pour savoir quelle étude on pourrait faire pour devenir agriculteur ?
Bah, par exemple, je vais faire un CAP agricole et je vais me lancer comme ouvrier agricole. Il faut savoir qu'il existe d'autres chemins pour devenir agriculteur. Par exemple, les BPA, brevet professionnel agricole, CAP, agricole métier de l'agriculture, bac pro, CGEVV, conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole, et BP, brevet professionnel, ou BTSA à bac plus 2.
Mais ça serait pour savoir, le salaire moyen d'un agriculteur, c'est quoi ?
Bah, le salaire moyen d'un agriculteur est de 1821 euros net par mois à plein temps, soit un salaire moyen annuel brut de 28 015 euros par an. En 2020, il y avait 416 436 exploitations agricoles présentes sur les territoires nationaux, métropoles et départements d'outre-mer. Leur nombre ne cesse de diminuer d'année en année. L'agriculture française fait face à un problème de non-renouvellement des générations qui est très ancienne. Aujourd'hui, pour 3 agriculteurs qui partent, on compte un jeune qui veut l'être.
Eh bien, merci beaucoup Maëlle et Van pour votre intervention qui m'a beaucoup appris sur ce sujet.
Bonjour Luna et Sarah, on aimerait bien que vous nous parliez des émotions.
Bonjour tout le monde, on se retrouve ici pour vous apprendre comment gérer le stress lors des compétitions. Nous allons poser quelques questions à des élèves de 4e pour savoir comment ils ont géré leur propre stress. Nous allons accueillir Tia et Gabriel. Tia, peux-tu nous dire comment tu t'es sentie lors de ta compétition de judo ?
Bah, j'étais assez calme, donc ça va, j'ai pas trop stressé.
Mais Gabriel, comment as-tu enlevé ton stress ?
Bah, je vais commencer à prendre une grande respiration et c'est ça qui m'a déstressée.
Merci beaucoup les filles pour vos réponses. Maintenant, nous allons passer aux explications des émotions.
Dans le domaine de la compétition, il n'est pas rare que les émotions décident de venir. Certaines émotions peuvent déconcentrer le sportif, mais elles peuvent également avoir une influence favorable sur la performance.
Selon le site de mobilesport.sh, on dit que la peur est un phénomène normal. Une jeune fille qui est en cours d'éducation physique peut avoir peur d'échouer et que ses camarades se moquent d'elle, tandis que le professionnel peut avoir peur de ne pas fournir les performances qu'on attend de lui. La peur peut entraîner perdre de l'attention.
Mais Luna, comment gérer le stress pendant une compétition ?
La relaxation est idéale pour rester calme, mais aussi la relaxation peut revertir différentes formes, comme l'hypnose, le yoga, la méditation, le massage et la réflexologie.
Mais ça fonctionne aussi avec des remèdes naturels ?
Oui, bien sûr. Ils peuvent utiliser des tisanes à base de fleurs et de plantes, comme la menthe, la mélisse ou la camomille. Elles sont souvent efficaces pour les troubles du sommeil.
Pour moi, j'évacue mon stress en écoutant de la musique ou rigoler avec mes amis.
Pour moi, ma solution pour évacuer le stress est écouter de la musique, lire et m'échauffer.
En conclusion, nous pouvons constater qu'il y a plusieurs remèdes contre le stress, comme écouter de la musique ou boire de la tisane.
Merci Luna et Sarah de nous avoir expliqué votre sujet, était très intéressant, merci.
Au tour de Amy et Alicia qui vont nous dire si l'amitié fille-garçon existe-t-elle vraiment.
Beaucoup ne croient pas en cette amitié, mais oui, elle existe et on va vous le prouver. Et si les difficultés liées à l'amitié fille-garçon venaient d'une perception différente des relations amicales ? C'est l'hypothèse proposée par une étude effectuée à l'université d'Oxford. Dans cette recherche, le professeur Robin Dunbar démontre que les femmes sont particulièrement douées pour entretenir des relations, malgré les évolutions de trajectoire, de vie ou les distances importantes. Les hommes auraient tendance à préférer davantage le contact physique et fréquent. En d'autres termes, pour les femmes, l'amitié se construirait d'abord par la parole, et pour les hommes par le partage d'activités communes.
Cependant, même si cette étude nous apporte un angle de réflexion intéressant, ces résultats ne sont pas à prendre pour acquis. Certaines femmes privilégient l'amitié en face à face. Lorsque certains hommes apprécient passer de longues heures au téléphone, De plus, c'est un exemple suffisant à montrer que l'amitié fille-garçon est possible. Le collège est un endroit idéal, comme d'autres endroits dans le cercle des amis, dans les clubs, pour observer des relations entre filles-garçons. Nos observations nous amènent à croire à cette relation. Pour comprendre cette relation, il faut la vivre ou la voir vivre, comme nous pouvons le constater dans notre classe de 4e. Pour nous, ça nous paraît simple et naturel.
Puisque l'étude montre qu'une relation fille-garçon peut exister, pour quelles raisons certains et certaines n'y croient pas ?
Certains garçons sont chahuteurs, bagarreurs, joueurs, alors que les filles sont généralement plutôt posées. Des filles peuvent être bagarreuses, joueuses, chahuteuses et certains garçons calmes. Mais sur ce sujet, c'est pas possible de faire des généralités. Les filles et garçons n'ont pas le même cerveau, donc pas les mêmes mentalités, pas le même fonctionnement ni le mode de pensée, pas les mêmes sujets de discussion et pas les mêmes avis. Les amitiés dépendent des deux personnes. En conclusion, les filles et garçons peuvent très bien être amis malgré l'avis des autres.
Eh bien, merci Amy et Alicia pour vos explications. C'était super intéressant.
Maintenant, on va parler des dangers des téléphones avec Angèle et Tia.
Il a été démontré que l'utilisation du téléphone portable augmente le stress, endommageant les cellules cérébrales. Il est bien connu que le stress est à l'origine de nombreuses maladies, telles que la maladie d'Alzheimer et le cancer.
Il est prouvé que les téléphones chez les enfants de moins de 3 ans causent des retards de motricité, retards de langage. 74% des parents estiment que leurs enfants passent trop de temps sur son portable. Si la surconsommation des écrans inquiète beaucoup les parents, leur principale angoisse liée à Internet est le risque d'exposition à des contenus choquants et plus particulièrement à des contenus pornographiques, 79%. Sanctuariser les centres d'éducation comme les lieux sans téléphone apparaît donc comme un moyen de répondre à ces inquiétudes.
Le cyberharcèlement est le fait d'insulter, de se moquer de quelqu'un par voie électronique ou bien d'envoyer des photos pornographiques. D'après une étude de l'ARCOM publiée jeudi, 2,3 millions de mineurs ont déjà reçu des photos pornographiques.
Via smartphone, ordinateur ou tablette. En 2022, un chiffre de hausse de 36% en 5 ans.
Merci Angèle et Tia pour nous avoir mieux appris les dangers du téléphone.
Maintenant, on va donner la parole à Maëline et Amélia qui vont nous parler des citations.
Bonjour, notre chronique porte sur les citations à avoir toujours dans notre baluchon. Elles nous ont parlé et peut-être qu'elles vous parleront aussi. Amélia, tu veux bien commencer ?
Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. De Dalai Lama. J'ai choisi cette citation car on peut comprendre à travers elle que pour apprendre à connaître une personne, il faut peut-être l'observer et connaître son comportement avant d'écouter ce qu'elle dit.
Connaître consiste à devenir essentiellement l'autre en tant qu'autre. Jacques Maritain. J'aime bien celle-là car à travers elle, je comprends que pour connaître l'autre, il faut se mettre à sa place et avoir son regard, le comprendre, voir sa vision des choses.
Ce qu'on sait de quelqu'un empêche de le connaître. Christian Bobin. L'image que les gens nous donnent d'une personne et ce que nous pensons d'elle nous empêche de connaître réellement la personne et sa vraie personnalité.
C'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre. Gaston Bachelard. J'ai décidé de prendre cette citation car je ressens la même chose quand je suis en cours. Pour finir, voilà une citation pour vous faire rire. La vie est courte, souriez pendant que vous avez encore des dents. Philippe Gabillet.
Merci Maëline et Amélia de nous avoir parlé des citations, un sujet très intéressant.
Maintenant place à Gabriel et Tia qui vont nous parler du chanteur Eminem.
Eminem c'est 15 albums, 144 millions d'albums solo officiellement vendus par Eminem dans le monde à date de juin 2021. Eminem est le premier rappeur de l'histoire à avoir remporté un Oscar en 2003 pour la meilleure chanson originale « Lose Yourself ». 30 milliards, c'est le nombre de streams cumulés par Eminem sur Spotify, le seul et unique artiste des années 90 à réussir cet exploit, et le sixième artiste le plus écouté de tous les temps de l'histoire de la plateforme. 4,39 milliards, c'est le nombre de vues cumulées sur la chaîne YouTube d'Eminem.
Pourquoi Eminem est un rappeur à connaître ? Eminem, de son vrai nom Marshall Mathers, est un célèbre rappeur né en 1972 à Détroit, aux États-Unis. Il a débuté le rap vers les années 1990 et ses chansons ont eu un grand succès.
Pourquoi le nom Eminem ? Si on prend les initiales de Eminem, en version anglaise Eminem, et en prononciation rapide, ça fait Eminem.
Pourquoi a-t-il commencé le rap ? Il a commencé pour parler de sa vie dans son quartier pauvre, où les riches et les pauvres sont séparés.
Détroit est une ville en train de faire faillite avec beaucoup de criminalité, a connu Eminem dans le début de sa carrière. Il décide donc d'en parler, mais il parle aussi de sa famille, notamment son ancienne femme qui l'a trompé, et de ses filles.
Nous pensons que Eminem mérite largement tous ses prix et récompenses. Nous, on aime ses chansons et son sens de l'humour, et ça nous surprend toujours de rencontrer des gens de tous les âges qui ne connaissent pas Eminem, ses chansons, sa vie. Car c'est quand même quelqu'un qui a fait du bon rap, qui écrit des bons titres, quelqu'un de très connu et enfin quelqu'un qui touche des millions de jeunes.
Merci Gabriel et Tia de nous avoir approfondi sur le rappeur Eminem, c'était intéressant.
Merci beaucoup à tous les 4e A de nous avoir parlé de vos différents sujets. Maintenant, on en sait plus sur l'agriculture, sur Finding Island, la Corée, les dangers du téléphone, les citations et les autres sujets évoqués.
Maintenant, on dormira moins bête. Un grand merci à tout le monde. Au revoir, à bientôt.